Alors, on va faire aujourd'hui un chapitre entier. On a commencé assez doucement dans les Romains, mais on va faire un chapitre entier, parce qu'on pourrait se poser des questions. On a vu tellement, tellement de belles choses. D'abord, la mauvaise nouvelle du péché, puis la bonne nouvelle du salut. Pourquoi tout ce chapitre 4? Je pense que dans un premier temps, il faut répondre que ce chapitre s'adresse un peu plus aux Juifs qui étaient dans l'église de Rome que les autres. Mais malgré tout, il y a des choses que nous, on peut aussi apprendre. Donc je me suis dit, ce n'est pas la peine de passer des semaines sur ce chapitre lorsque cela parle d'Abraham. On a parlé de cet homme la semaine dernière, de comment il avait quitté Ur et puis Haran, deux centres de culte voués à la lune, donc comme déesse en quelque sorte, pour commencer à invoquer l'Éternel et finalement à faire confiance à la promesse de l'Éternel. Et on a vu que cela a été compté comme justice par le Seigneur sur le compte d'Abraham. Alors, puisque c'est tout un chapitre, je ne vais pas lire tout le texte dès le début. On va le diviser en quatre parties. Et on va revenir très brièvement sur ce qui a précédé. Donc, vous rappelez, depuis le verset 21 du chapitre 3, les mots « mais maintenant » pour dire que certes, tous ont péché, certes, personne n'est sauvé par la loi, mais maintenant, la justice de Dieu est manifestée. Et nous avons vu ces trois mots, la justification, qui est un terme juridique où Dieu nous déclare juste, la rédemption, qui fait plutôt référence à la libération des esclaves, Dieu nous libère de l'esclavage, et la propitiation, on a vu que Jésus est une victime propitiatoire, c'est-à-dire que par sa mort, comme les sacrifices dans l'Ancien Testament, cette mort, ce sacrifice rend Dieu propice, donc favorable à notre égard. C'est très riche, ces versets. Puis, on arrive au verset 31 et on se pose la question, en quelque sorte, et la religion dans tout cela? Donc, je relis le verset 31 du chapitre 3. Annulons donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Cette question s'applique pour les Juifs, s'applique pour tous, dans un sens. À quoi ça sert d'avoir la loi? À quoi ça sert d'avoir les pratiques religieuses? Les Juifs auraient pu dire, mais écoutez, Dieu nous a donné cette loi. Il a donné des 10 commandements. Il nous a donné les sacrifices, il nous a donné le temple, il nous a donné les sacrificateurs. Il a donné toutes ces lois sur tout ce qui est cachère ou non, la façon de se conduire devant lui. Tout ça, Paul, tu es en train de dire que on peut brûler l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin? Et Paul dit, oh non, même la loi confirme ce que je suis en train de dire. C'est ça qu'on va voir au chapitre 4. Mais la question se pose, et on l'a dit la dernière fois, la question se pose de toute façon pour tout le monde. Parce qu'on peut dire que dans ce sens, le fond de chaque religion, quelle qu'elle soit, est pareil. Fais ceci et tu seras bien aux yeux de Dieu. Suis un certain nombre de principes. Fais des choses. Et la grâce de Dieu, c'est tout le contraire. Vous n'arriverez pas. Je vous fais grâce, je vous pardonne par mon Fils, mais après, on va essayer ensemble, je me mets à la place de Dieu, on va essayer ensemble de progresser, comme j'ai cité tout à l'heure le premier verset qu'on va voir mercredi soir, Tite 2,14. La grâce de Dieu nous apprend à faire plein de choses. Mais on commence avec la grâce de Dieu. Donc, on a vu la semaine dernière, dans l'histoire d'Abraham, Genèse 15, verset 6, ça c'est la traduction du Sommaire que j'ai mis à l'écran. Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il n'avait rien fait pour le mériter. Vous vous rappelez, il est parti en Égypte, il a raconté des bobards par rapport à sa femme et tout. C'était pas la seule fois où il a fait des trucs qui n'étaient pas tout à fait ce que Dieu voulait. Mais il a cru à la promesse de Dieu. Et Dieu dit, ok, je te compte comme juste. Voilà, ça c'est un peu la révision pour plonger maintenant dans ce chapitre à partir du verset 6. Et donc j'ai divisé maintenant le chapitre en trois parties. J'avais dit quatre tout à l'heure, mais la première partie c'était la révision donc, de la semaine dernière. Donc première question, ce bonheur c'est pour qui ? Paul vient de parler d'Abraham, maintenant il parle de David. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc c'est pour ça que j'ai profité d'être le président de culte pour parler du psaume 32. Comme ça, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ces trois versets. Mais David parle donc du bonheur du pardon de ses péchés. Et maintenant, à partir du verset 9, Paul revient à Abraham. Donc je vais lire du verset 9 au verset 12. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Quand nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, quand donc lui fut-elle imputée? Est-ce que c'était après ou avant sa circoncision? En fait, il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sous les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Donc, c'est une question, c'est une sorte de dialogue rabbinique. On trouve ses traces, hein. Paul était formé comme pharisien, donc tout son raisonnement est dit, ok, il était pardonné par la foi, est-ce que c'était avant ou après sa circoncision? Il dit, c'était avant, donc la circoncision n'y est pour rien. La circoncision n'y est pour rien. Donc Genèse 15, 6, le verset que j'ai cité, la circoncision n'y est pour rien. Après, certes, comme signe, en quelque sorte, cette fois, il a été circoncis, le mot qui est utilisé comme sceau. Donc, je cherchais un petit peu dans des commentaires comment on comprend ce mot sceau, et ils ont dit plus ou moins ceci, c'est la garantie visible d'une promesse. Donc, on fait une promesse, c'est un document, hein, je promets deux, etc., un document légal, et en bas, on met le sceau pour dire, voilà, c'est garanti. C'est presque lu et approuvé, on va dire, en quelque sorte. Hein. Donc, la circoncision n'était pas le moyen du pardon du péché, c'était le signe visible de ce pardon. Et donc, du coup, on peut dire qu'Abraham est le père de tous les croyants. C'est ce qu'il dit à la fin. Et le père de tous ceux qui sont ainsi circoncis, donc les païens, les non-juifs, parce qu'il a cru à ce moment-là, mais il est aussi le père des croyants juifs, à condition, hein, verset 12, qui marche sous les traces de la foi de notre père Abraham. Et c'est pour cela que quand on dit qu'Abraham c'est le père, on le dit souvent, il est le père des Juifs, il est le père, on va dire, des Arabes aussi, donc, par Ismaël. Mais le plus important, ce n'est pas la descendance physique, c'est la descendance de ceux qui ont la même foi qu'Abraham. Donc il est à la fois le père des circoncis, des incirconcis, des Juifs et des non-Juifs, donc, de tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Donc, y compris nous-mêmes. Donc ça, c'est le bonheur avec seule condition, la foi. Et donc, première question. Deuxième question. Je l'ai dit très simplement, héritier du monde, c'est quoi? J'ai mis c'est quoi parce que qu'est-ce que c'est? J'arrivais pas à faire une seule ligne. C'est quoi et comment? Héritier. Donc ça, c'est les versets que j'ai pas indiqués de 13 à 17. Je lis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Donc je vais jusque-là. On a vu la dernière fois, dans Genèse 12, que Dieu a fait trois promesses à Abraham. D'abord qu'il serait une grande nation. Ensuite qu'il serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et ensuite, que Dieu lui donnerait un pays. Donc ce sont les versets 2, 3 et 7 de Genèse 12. Une grande nation, parce qu'il a eu beaucoup de descendants, une bénédiction pour toutes les familles de la terre, et on le voit surtout par sa descendance, c'est-à-dire celui qui devait venir, le Messie, Jésus, le Christ, et que Dieu lui donnerait un pays. Ce qui s'est fait d'ailleurs, il a fallu du temps. Le peuple est parti en Égypte, ils sont devenus esclaves, ils sont revenus, ils ont mis des années, on peut dire des siècles, pour vraiment s'emparer du pays et y habiter. Mais c'était quand même les trois promesses. Alors, la question, c'est en quoi cet héritage du monde, donc qu'il hérite du monde, s'applique à nous aujourd'hui. Parce que le verset 17 dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est dans Genèse 17 et le verset 5. D'abord, la première chose à dire, que c'est uniquement par la foi. Et la loi, ça ne sert à rien. La loi, on l'a déjà vu dans Romains 3, quand on entend la loi, qu'est-ce que cette loi provoque en nous? La loi provoque encore plus de désobéissance. Il suffit de dire de voir interdit d'eux, et c'est ça qu'on a envie de faire. C'est souvent comme ça. La loi nous donne la conscience de ce que nous sommes vraiment en nous-mêmes, et donc, la loi produit même la colère de Dieu. Je ne vais pas revenir sur les chapitres 1 et 3, mais on l'a vu à plusieurs reprises, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tous ceux qui étouffent la vérité. C'est pourquoi, verset 16, les héritiers le sont par la foi. Et qui, par la foi, pas uniquement Abraham, pas uniquement le peuple d'Israël, mais, donc, qui est sous la loi, mais à celle qui a la foi d'Abraham, notre père. Et à plusieurs reprises, dans le Nouveau Testament, on dit que nous sommes aussi héritiers. Donc, on peut dire en bas de page, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, donc nous héritons dans ce sens du pays. Seulement le pays n'est plus pour nous une entité géographique. Ce n'est plus un pays tout à fait à l'est de la mer Méditerranée, avec l'Égypte en dessous, avec le Liban au-dessus. Pour nous, c'est le royaume de Dieu et c'est incroyable, on pourrait faire toute une étude, ce n'était pas le moment ce matin, mais on peut faire toute une étude en utilisant le vocabulaire de la façon dont le pays était réparti entre les tribus, pour dire que le même vocabulaire est repris dans le Nouveau Testament par rapport aux chrétiens, pour dire que nous aussi, nous héritons en quelque sorte de cette promesse, seulement cette promesse maintenant, ce n'est pas que nous allons tous déménager et aller vivre en Jérusalem. Si vous voulez, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a rien qui l'interdit. Mais la promesse, c'est que nous entrons dans le royaume de Dieu. Donc, c'est comme si la première promesse a dépassé, enfin, l'accomplissement a dépassé de loin la promesse. Je cite un seul verset, c'est dans Éphésiens 1, verset 11. Dans les versets précédents, on dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Donc tout ça, c'est aussi Éphésiens 1. Puis il arrive au verset 11 pour dire, en lui nous sommes devenus héritiers. Donc nous sommes aussi héritiers. Alors c'est quoi héritier? C'est hériter des mêmes promesses et ces promesses sont beaucoup plus merveilleuses que et dépassent de loin ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament pour son peuple. C'est maintenant l'Église, les chrétiens sont partout dans le monde. Je ne sais pas si, je pense qu'il n'y a pas un seul pays du monde où il n'y a pas des chrétiens, parfois en toute petite minorité, mais il y a des chrétiens de partout. Nous héritons du monde. Et non seulement cela, mais on peut aller encore plus loin, même si je ne vais pas le développer ce matin, pour dire un jour, il sera la fin du monde, il y aura les nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc nous allons hériter aussi de cela. Nous serons vraiment dans le royaume de Dieu, là où Dieu est roi, à ce moment-là. Mais ce que Paul veut surtout souligner ici, et c'est que tout cela, c'est par la foi et non pas par la loi. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu, qui devient notre roi, que nous entrons dans le royaume de Dieu. Maintenant, la troisième partie, c'est, titre un peu plus long, hein, Dieu donne la vie aux morts, et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est à partir du verset 17 et jusqu'à la fin du chapitre. Donc je reprends le début du verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. Il devint aussi le père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit, telle sera ta postérité. et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais, et après 21 versets, on arrive à nous, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham, 100 ans, Sarah, 90 ans. C'est rare. Ce n'est pas souvent que ça arrive. Et Abraham a cru à cette promesse. Donc on peut dire, à la limite, il donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Bon, c'est toujours le cas, hein, pour chaque enfant qui naît. C'est absolument incroyable. On donne la vie. Ève, à partir de ça, j'ai donné la vie. Mais cette promesse, donc, c'est pour ça que Dieu l'a compté comme juste, parce que malgré sa situation, sans enfant, il a cru à la promesse qu'il aurait une grande postérité. Mais, donc il a compté sur Dieu qui est fidèle et capable. Mais c'est le... Excusez-moi, il y a un petit faute. J'ai fait mon PowerPoint 5 minutes avant de venir parce que je l'avais oublié. C'est le cas pour nous. Et nous, c'est le mot de Paul. Nous. Verset 23. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Donc c'est toujours la même chose. Il donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Éphésiens 2, verset 1. Ça commence comment ?
Nous étions morts.
Morts spirituellement. Et il nous donne la vie spirituelle. Dieu ne nous regarde pas pour dire « Ah, je vois quelques éléments pas mal chez cette personne. C'est à partir de là, je vais pouvoir faire quelque chose. » Donc, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La preuve, et j'ai souvent été frappé par cela, le mot « bara » en hébreu, qui veut dire « créer », qu'on ne retrouve que 3 fois d'ailleurs dans tout le récit de la Genèse. Donc, appeler, c'est toujours Dieu qui est le sujet, donc à partir de rien. Que dit David dans le psaume 51 ? « Crée en moi un cœur nouveau ». Donc c'est à partir de rien, on va dire, ce n'est pas en nous. Donc Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, et c'est pour cela que il insiste, hein, deuxième partie du verset 17, il est notre père, donc Abraham, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est la version du semeur. C'est donc la justification, parce que nous croyons que Jésus, notre Seigneur, notre patron, notre maître, a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, la preuve de notre justification. Donc, c'est une sorte de, on peut dire, de petite parenthèse, tout ce chapitre, qui parle beaucoup aux Juifs dans l'église de Rome, mais Paul n'hésite pas à dire, de toute façon, c'est toujours nous, que l'on soit juif ou non. Et on pourrait résumer tout ce chapitre en disant ceci. Trois négatifs et un positif. Abraham n'a pas été justifié par la circoncision. Abraham n'a pas été justifié par la loi. Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Abraham a été justifié par la foi en Dieu. Même chose pour nous. Ce n'est pas parce que nous avons fait de belles œuvres, ce n'est pas parce que nous obéissons à la loi, ce n'est pas parce que, je change légèrement, parce que nous avons été baptisés enfants, par exemple, mais c'est par la foi. Et c'est ça, l'Évangile, c'est ça, la bonne nouvelle. Et si c'est une bonne nouvelle, ça nous rend heureux. Et on revient donc à ce psaume 32, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Une bonne nouvelle.